Histoire de Gil Blas de Santillane, livre 10, chapitre 11. Suite de l'histoire de Scipion. Tant que j'eus de l'argent, mon hôte me fit bonne mine et eut de grands égards pour moi. Mais du moment qu'il s'aperçut que je n'en avais plus guère, il me battit froid, me fit une querelle d'allemand et me pria un beau matin de sortir de sa maison pour aller loger ailleurs. Je le quittai fièrement, et j'entrai dans l'église des Pères de Saint-Dominique, où, pendant que j'entendais la messe, un vieux mendiant vint me demander l'aumône. Je tirai de ma poche 2 ou 3 maravédis que je lui donnai en lui disant « Mon ami, priez Dieu qu'il me fasse trouver bientôt quelque bonne place. Si votre prière est exaucée, vous ne vous repentirez pas de l'avoir faite. Comptez sur ma reconnaissance. » À ces mots, le gueux me considéra fort attentivement et me répondit d'un air sérieux « Quel poste souhaiteriez-vous d'avoir ?»« Je voudrais, lui répliquai-je, être laquais dans quelque maison où je fusse bien. » Il me demanda si la chose pressait. « On ne peut pas davantage, lui dis-je, car si je n'ai pas au plus tôt le bonheur d'être placé, il n'y a point de milieu. Il faudra que je meure de faim ou que je devienne un de vos confrères. » « Si vous étiez réduit à cette nécessité, reprit-il, cela serait fâcheux pour vous. Vous n'êtes pas fait à nos manières. Mais pour peu que vous y fussiez accoutumé, vous préféreriez notre état à la servitude, qui, sans contredit, est inférieur à la gueuserie. Cependant, puisque vous aimez mieux servir que de mener, comme moi, une vie libre et indépendante, vous aurez un maître incessamment. Tel que vous me voyez, je puis vous être utile. » Je vais dès aujourd'hui m'employer pour vous. Soyez ici demain à la même heure. Je vous rendrai compte de ce que j'aurai fait. » Je n'eus garde d'y manquer. Je revins le jour suivant au même endroit où je ne fus pas longtemps sans apercevoir le mendiant qui vint me rejoindre et qui me dit de prendre la peine de le suivre. Je le suivis. Il me conduisit à une cave qui n'était pas éloignée de l'église et où il faisait résidence. Nous y entrâmes tous deux. Et nous étant assis sur un long banc qui avait pour le moins 100 ans de service, il me tint ce discours. « Une bonne action trouve toujours sa récompense. Vous me donnâtes hier l'aumône, et cela m'a déterminé à vous procurer une bonne condition, ce qui sera bientôt fait s'il plaît au Seigneur. Je connais un vieux dominicain, nommé le père Alexis, qui est un saint religieux, un grand directeur. J'ai l'honneur d'être son commissionnaire, et je m'acquitte de cet emploi avec tant de discrétion et de fidélité qu'il ne refuse point d'employer son crédit pour moi et pour mes amis. Je lui ai parlé de vous, et je l'ai mis dans la disposition de vous rendre service. Je vous présenterai à sa révérence quand il vous plaira. » « Il n'y a pas un moment à perdre, » dis-je au vieux mendiant. « Allons voir tout à l'heure ce bon religieux. » Le pauvre y consentit et me mena sur le champ au père Alexis, que nous trouvâmes occupé dans sa chambre à écrire des lettres spirituelles. Il interrompit son travail pour me parler. Il me dit qu'à la prière du mendiant, il voulait bien s'intéresser pour moi. « Ayant appris, poursuivit-il, que le seigneur Balthazar Velasquez avait besoin d'un laquais, je lui ai écrit ce matin en votre faveur. » Et il vient de me faire réponse qu'il vous recevrait aveuglément de ma main. Vous pouvez dès ce jour le voir de ma part. C'est mon pénitent et mon ami. » Là-dessus, le moine m'exhorta pendant 3 bons quarts d'heure à bien remplir mes devoirs. Il s'étendit principalement sur l'obligation où j'étais de servir Velasquez avec zèle. Après quoi, il m'assura qu'il aurait soin de me maintenir dans mon poste, pourvu que mon maître n'eût point de reproche à me faire. Après avoir remercié le religieux des bontés qu'il avait pour moi, je sortis du monastère avec le mendiant, qui me dit que le seigneur Balthazar Velasquez était un vieux marchand de draps, un homme riche, simple et débonnaire. « Je ne doute pas, ajouta-t-il, que vous ne soyez parfaitement bien dans sa maison, qu'à votre place je préférerais à une maison de qualité. » Je m'informai de la demeure du bourgeois et je m'y rendis sur le champ, après avoir promis au gueux de reconnaître ses bons offices sitôt que j'aurais pris racine dans ma condition. J'entrai dans une boutique où 2 jeunes garçons marchands, proprement vêtus, se promenaient en long et en large et faisaient les agréables en attendant la pratique. Je leur demandai si le maître y était et leur dis que j'avais à lui parler de la part du père Alexis. À ce nom respectable, on me fit passer dans une arrière-boutique où le marchand feuilletait un gros registre qui était sur le bureau. Je le saluai respectueusement. « Seigneur, lui dis-je, vous voyez le jeune homme que le révérend père Alexis vous a proposé pour laquais. »« Ah, mon enfant, me répondit-il, sois le bienvenu. Il suffit que tu me sois envoyé par ce saint homme. Je te reçois à mon service préférablement à 3 ou 4 laquais qu'on me veut donner. C'est une affaire décidée. Les gages courent dès ce jour. » Je n'eus pas besoin d'être longtemps chez ce bourgeois pour m'apercevoir qu'il était tel qu'on me l'avait dépeint. Il me parut même d'une si grande simplicité que je ne pus m'empêcher de penser que j'aurais bien de la peine à m'abstenir de lui jouer quelques tours. Il était veuf depuis 4 années et il avait 2 enfants, un garçon qui achevait son 5e lustre et une fille qui commençait son 3e. La fille, élevée par une duègne sévère et dirigée par le père Alexis, marchait dans le sentier de la vertu. Mais Gaspard Velasquez, son frère, quoiqu'on n'eût rien épargné pour en faire un honnête homme, avait tous les vices d'un jeune libertin. Il passait quelquefois 2 ou 3 jours hors du logis, et si, à son retour, son père s'avisait de lui en faire des reproches, Gaspard lui imposait silence en le prenant sur un ton plus haut que le sien. « Scipion, me dit un jour le vieillard, j'ai un fils qui fait toute ma peine. Il est plongé dans toutes sortes de débauches. Cela m'étonne, car son éducation n'a pas été négligée. Je lui ai donné de bons maîtres. Et le père Alexis, mon ami, a fait tous ses efforts pour le mettre dans le bon chemin. Mais, hélas, il n'a pu en venir à bout. Gaspard s'est jeté dans le libertinage. » Tu me diras peut-être que je l'ai traité avec trop de douceur dans sa puberté, et que c'est cela qu'il a perdu. Mais non, il a été châtié quand j'ai jugé à propos d'user de rigueur, car tout débonnaire que je suis, je ne laisse pas d'avoir de la fermeté dans les occasions qui en demandent. Je l'ai même fait enfermer dans une maison de force, et il n'en est devenu que plus méchant. En un mot, c'est un de ces mauvais sujets que le bon exemple, les remontrances et les châtiments ne sauraient corriger. Il n'y a que le ciel qui puisse faire ce miracle. Si je ne fus pas fort touché de la douceur de ce malheureux père, du moins je fis semblant de l'être. « Que je vous plains, monsieur, lui dis-je. Un homme de bien comme vous méritait d'avoir un meilleur fils. « Que veux-tu, mon enfant ? Me répondit-il. « Dieu m'a voulu priver de cette consolation. » Entre les sujets que Gaspard me donne de me plaindre de lui, poursuivit-il, je te dirai confidemment qu'il y en a un qui me cause beaucoup d'inquiétude. C'est l'envie qu'il a de me voler, et qu'il ne trouve que trop souvent moyen de satisfaire, malgré ma vigilance. Le laquais à qui tu succèdes s'entendait avec lui, et c'est pour cela que j'ai chassé ce domestique. Pour toi, je compte que tu ne te laisseras pas corrompre par mon fils. Tu épouseras mes intérêts. Je ne doute pas que le père Alexis ne te l'ait bien recommandé. Je vous en réponds, lui dis-je. Sa révérence m'a exhorté pendant 1 heure à n'avoir en vue que votre bien. Mais je puis vous assurer que je n'avais pas besoin pour cela de son exhortation. Je me sens disposé à vous servir fidèlement, et je vous promets enfin un zèle à toute épreuve. Qui n'entend qu'une partie n'entend rien. Le jeune Velasquez, petit maître en diable, jugeant à ma physionomie que je ne serais pas plus difficile à séduire que mon prédécesseur, m'attira dans un endroit écarté et me parla dans ces termes. « Écoute, mon cher, je suis persuadé que mon père t'a chargé de m'espionner. Il n'y a pas manqué. Mais prends-y garde, je t'en avertis, cet emploi n'est pas sans désagrément. Si je viens à m'apercevoir que tu m'observes, je te ferai mourir sous le bâton. Au lieu que, si tu veux m'aider à tromper mon père, tu peux tout attendre de ma reconnaissance. Faut-il te parler plus clairement? Tu auras ta part dans les coups de filet que nous ferons ensemble. Tu n'as qu'à choisir. Déclare-toi, dans le moment, pour le père ou pour le fils. Point de quartier. « Monsieur, lui répondis-je, vous me serrez furieusement le bouton. Je vois bien que je ne pourrais me défendre de me ranger de votre parti. Quoique dans le fond, je me sente de la répugnance à trahir le seigneur Velasquez. »
« Tu ne dois t'en faire aucun scrupule, » reprit Gaspard.
« C'est un vieil avare qui voudrait encore me mener à la lisière. Un vilain qui me refuse mon nécessaire en refusant de fournir à mes plaisirs. Car les plaisirs sont des besoins à 25 ans. C'est dans ce point de vue qu'il faut que tu regardes mon père. »
« Voilà qui est fini, monsieur, lui dis-je. Il n'y a pas moyen de tenir contre un si juste sujet de plainte. Je me déclare pour vous, et je m'offre à vous seconder dans vos louables entreprises. Mais cachons bien tous deux notre intelligence, de peur qu'on ne mette à la porte votre fidèle adjoint. Vous ne ferez point mal, ce me semble, d'affecter de me haïr. Parlez-moi brutalement devant tout le monde. Ne mesurez point les termes. Quelques soufflets même et quelques coups de pied au cul ne gâteront rien. Au contraire, plus vous me donnerez de marques d'aversion, plus le seigneur Balthazar aura de confiance en moi. De mon côté, je ferai semblant d'éviter votre conversation. En vous servant à table, je paraîtrai ne m'en acquitter qu'à regret. Et quand je m'entretiendrai de votre seigneurie, ne trouvez pas mauvais que je dise pique-pendre de vous. Vous verrez que tout le monde au logis sera la dupe de cette conduite, et qu'on nous croira tous deux ennemis mortels.
« Vive Dieu !» s'écria le jeune Velasquez à ses dernières paroles. « Je t'admire, mon ami. Tu fais paraître à ton âge un génie étonnant pour l'intrigue. J'en conçois pour moi le plus heureux présage. J'espère qu'avec le secours de ton esprit, je ne laisserai pas une pistole à mon père. »
« Vous me faites trop d'honneur, lui dis-je, de tant compter sur mon industrie. Je ferai mon possible pour justifier la bonne opinion que vous en avez, et si je ne puis y résister, ce ne sera pas ma faute. » Je ne tardai guère à faire connaître à Gaspard que j'étais effectivement l'homme qu'il lui fallait. Et voici quel fut le premier service que je lui rendis. Le coffre-fort de Balthazar était dans la chambre de ce bonhomme à la ruelle de son lit, et lui servait de prie-dieu. Toutes les fois que je le regardais, il me réjouissait la vue, et je lui disais souvent en moi-même, « Coffre-fort, mon ami, seras-tu toujours fermé pour moi? N'aurai-je jamais le plaisir de contempler le trésor que tu recèles ?» Comme j'allais, quand il me plaisait, dans la chambre, dont l'entrée n'était interdite qu'à Gaspard, il arriva un jour que j'aperçus son père, qui, croyant n'être vu de personne, après avoir ouvert et renfermé son coffre-fort, en cacha la clé derrière une tapisserie. Je remarquai bien l'endroit et fis part de cette découverte à mon jeune maître, qui me dit en m'embrassant de joie, « Ah, mon cher Scipion, que viens-tu de m'apprendre? Notre fortune est faite, mon enfant. Je te donnerai dès aujourd'hui de la cire. Tu prendras l'empreinte de la clé et tu me la remettras entre les mains. Je n'aurai pas de peine à trouver un serrurier obligeant dans Cordoue, qui n'est pas la ville d'Espagne où il y a le moins de fripons. »
« Et pourquoi, dis-je à Gaspard, voulez-vous faire faire une fausse clé, quand nous pouvons nous servir de la véritable ?»«
Tu as raison, me répondit-il,
mais je crains que mon père, par défiance ou autrement, ne s'avise de la cacher ailleurs, et le plus sûr est d'en avoir une qui soit à nous. »
J'approuvai sa crainte, et me rendant à son sentiment, je me préparai à prendre l'empreinte de la clé. Ce qui fut exécuté un beau matin, tandis que mon vieux patron faisait une visite au père Alexis, avec lequel il avait ordinairement de fort longs entretiens. Je n'en demeurai pas là. Je me servis de la clé pour ouvrir le coffre-fort, qui, se trouvant rempli de grands et de petits sacs, me jeta dans un embarras charmant. Je ne savais lequel choisir, tant je me sentais d'affection pour les uns et pour les autres. Néanmoins, comme la peur d'être surpris ne me permettait pas de faire un long examen, je me saisis à tout hasard d'un des plus gros. Ensuite, ayant refermé le coffre et remis la clé derrière la tapisserie, je sortis de la chambre avec ma proie, que j'allais cacher dans une petite garde-robe, en attendant que je pusse la remettre au jeune Velasquez, qui m'attendait dans une maison où il m'avait donné rendez-vous, et que je rejoignis promptement en lui apprenant ce que je venais de faire. Il fut si content de moi qu'il m'accabla de caresses et m'offrit généreusement la moitié des espèces qui étaient dans le sac. Ce que je refusai. « Non, non, monsieur, lui dis-je, ce premier sac est pour vous seul. Servez-vous-en pour vos besoins. Je retournerai incessamment au coffre-fort, où, grâce au ciel, il y a de l'argent pour nous deux. » En effet, 3 jours après, j'enlevai un second sac, où il y avait, ainsi que dans le premier, 500 écus, desquels je ne voulus accepter que le quart, quelques instances que me fit Gaspard pour m'obliger à les partager avec lui fraternellement. Sitôt que ce jeune homme se vit si bien en fond, et par conséquent en état de satisfaire la passion qu'il avait pour les femmes et pour le jeu, il eut le malheur de s'entêter d'une de ces fameuses coquettes qui dévorent et engloutissent en peu de temps les plus gros patrimoines. Il se jeta pour elle dans une dépense effroyable, ce qui me mit dans la nécessité de rendre tant de visites au coffre-fort que le vieux Vélasquez s'aperçut enfin qu'on le volait. « Scipion, me dit-il un matin, il faut que je te découvre mon cœur. Quelqu'un me vole, mon ami. On a ouvert mon coffre-fort. On en a tiré plusieurs sacs. C'est un fait constant. Qui dois-je accuser de ce larcin? Ou plutôt, quel autre que mon fils peut l'avoir fait? Gaspard sera furtivement entré dans ma chambre, ou bien tu l'y auras toi-même introduit. Car je suis tenté de te croire d'accord avec lui, quoique vous paraissiez tous deux fort mal ensemble. Néanmoins, ajouta-t-il, je ne veux pas écouter ce soupçon, puisque le père Alexis m'a répondu de ta fidélité. Je répondis que, grâce à Dieu, le bien d'autrui ne me tentait point, et j'accompagnai ce mensonge d'une grimace hypocrite qui me servit d'apologie. Effectivement, le vieillard ne m'en parla plus, mais il ne laissa pas de m'envelopper dans sa défiance, et, prenant des précautions contre nos attentats, il fit mettre à son coffre-fort une nouvelle serrure, dont il porta toujours, depuis, la clé dans ses poches. Par ce moyen, tout commerce étant rompu entre nous et les sacs, nous demeurâmes fort sots, particulièrement Gaspard, qui, ne pouvant plus faire la même dépense pour sa nymphe, craignit d'être obligé de ne la plus voir. Il eut pourtant l'esprit d'imaginer un expédient qui le fit rouler pendant quelques jours, et cet ingénieux expédient fut de s'approprier, par forme d'emprunt, tout ce qui m'était revenu des saignées que j'avais faites au coffre-fort. Je lui donnai jusqu'à la dernière pièce, ce qui pouvait, ce me semble, passer pour une restitution anticipée que je faisais au vieux marchand dans la personne de son héritier. Ce jeune homme, lorsqu'il eut épuisé cette ressource, considérant qu'il n'en avait plus aucune autre, tomba dans une profonde et noire mélancolie qui troubla peu à peu sa raison. Il ne regarda son père que comme un homme qui faisait tout le malheur de sa vie. Il entra dans un vif désespoir, et, sans être retenu par la voix du sang, le misérable conçut l'horrible dessein de l'empoisonner. Il ne se contenta pas de me faire confidence de cet exécrable projet. Il me proposa même de servir d'instrument à sa vengeance. À cette proposition, je me sentis saisi d'effroi. « Monsieur, lui dis-je, est-il possible que vous soyez assez abandonné du ciel pour avoir formé cette abominable résolution ? Quoi ? Vous seriez capable de donner la mort à l'auteur de vos jours ? On verrait en Espagne, dans le sein du christianisme, commettre un crime dont la seule idée ferait horreur aux nations les plus barbares. Non, non, cher maître, ajoutai-je en me mettant à ses genoux. Non, vous ne ferez point une action qui soulèverait contre vous toute la terre et qui serait suivie d'un infâme châtiment. Je tins encore d'autres discours à Gaspard pour le détourner d'une entreprise si coupable. Je ne sais où j'allais prendre tous les raisonnements d'honnête homme dont je me servis pour combattre son désespoir. Mais il est certain que je lui parlais comme un docteur de Salamanque, tout jeune et tout fils que j'étais de la Coscolina. Cependant, j'eus beau lui représenter qu'il devait rentrer en lui-même et rejeter courageusement les pensées détestables dont son esprit était assailli, toute mon éloquence fut inutile. Il baissa la tête sur son estomac, et gardant un morne silence, quelque chose que je pusse faire et dire, il me fit juger qu'il n'en démordrait pas. Là-dessus, prenant mon parti, je résolus de révéler tout à mon vieux maître. Je lui demandai un secret d'entretien. Il me l'accorda, et nous étant tous deux enfermés, « Monsieur, lui dis-je, souffrez que je me jette à vos pieds et que j'implore votre miséricorde. » En achevant ces paroles, je me prosternai devant lui avec beaucoup d'émotion et le visage baigné de larmes. Le marchand, surpris de mon action et de mon air troublé, me demanda ce que j'avais fait. « Une faute dont je me repens, lui répondis-je, et que je me reprocherai toute ma vie. J'ai eu la faiblesse d'écouter votre fils et de l'aider à vous voler. » En même temps, je lui fis un aveu sincère de tout ce qui s'était passé à ce sujet. Après quoi, je lui rendis compte de la conversation que je venais d'avoir avec Gaspard, dont je lui révélai le dessein sans oublier la moindre circonstance. Quelque mauvaise opinion que le vieux Vélasquez eut de son fils, à peine pouvait-il ajouter foi à ce discours. Néanmoins, ne doutant nullement que mon rapport ne fût véritable, « Scipion, me dit-il en me relevant, car j'étais toujours à ses pieds, je te pardonne en faveur de l'avis important que tu viens de me donner. » « Gaspard, poursuivit-il en élevant sa voix, Gaspard en veut à mes jours. Ah, fils ingrat, monstre qu'il eût mieux valu étouffer en naissant que laisser vivre pour devenir un parricide. Quel sujet as-tu d'attenter sur ma vie? Je te fournis tous les ans une somme raisonnable pour tes plaisirs, et tu n'es pas content. Faut-il donc, pour te satisfaire, que je te permette de ruiner ta sœur et de dissiper tous mes biens? » Ayant fait cette apostrophe amère, il me recommanda le secret, et me dit de le laisser seul songer à ce qu'il avait à faire dans une conjoncture si délicate. J'étais fort en peine de savoir quelle résolution prendrait ce père infortuné, lorsque le même jour il fit appeler Gaspard et lui tint ce discours sans rien lui témoigner de ce qu'il avait dans l'âme. « Mon fils, j'ai reçu une lettre de Mérida, d'où l'on me mande que, si vous voulez vous marier, on vous offre une fille de 15 ans, parfaitement belle, et qui vous apportera une riche dot. » Si vous n'avez pas de répugnance pour le mariage, nous partirons demain au lever de l'aurore pour Mérida. Nous verrons la personne qu'on vous propose. Si elle est de votre goût, vous l'épouserez, et si elle ne l'est pas, il ne sera plus parlé de ce mariage. » Gaspard, entendant parler d'une riche dot et croyant déjà la tenir, répondit sans hésiter qu'il était prêt à faire ce voyage. Si bien qu'ils partirent le lendemain dès la pointe du jour, tous deux, seuls, et montés sur de bonnes mules. Quand ils furent dans les montagnes de Fézira, et dans un endroit aussi chéri des voleurs que redouté des passants, Balthazar mit pied à terre en disant à son fils d'en faire autant. Le jeune homme obéit et demanda pourquoi, dans ce lieu-là, on le faisait descendre de sa mule. « Je vais te l'apprendre, » lui répondit le vieillard en l'envisageant avec des yeux où sa douleur et sa colère étaient peintes. « Nous n'irons point à Mérida. Élimène, dont je t'ai parlé, n'est qu'une fable que j'ai inventée pour t'attirer ici. Je n'ignore pas, fils ingrat et dénaturé, le forfait que tu médites. Je sais qu'un poison, préparé par tes soins, me doit être présenté. Mais, insensé que tu es, as-tu pu te flatter que tu m'ôterais de cette façon impunément la vie? Quelle erreur! Songe que ton crime serait bientôt découvert et que tu périrais par la main du bourreau. Il est, continua-t-il, un moyen plus sûr de contenter ta rage sans t'exposer à une mort ignominieuse. Nous sommes ici sans témoins et dans un endroit où se commettent tous les jours des assassinats. Puisque tu es si altéré de mon sang, enfonce ton poignard dans mon sein. On imputera ce meurtre à des brigands. » À ces mots, Balthazar, découvrant sa poitrine et marquant la place de son cœur à son fils, « Tiens, Gaspard, ajouta-t-il, porte-moi là un coup mortel pour me punir d'avoir produit un scélérat comme toi. » Le jeune Vélasquez, frappé de ces paroles comme d'un coup de tonnerre, bien loin de chercher à se justifier, tomba tout à coup sans sentiment aux pieds de son père. Ce bon vieillard, le voyant dans cet état qui lui parut un commencement de repentir, ne put s'empêcher de céder à la faiblesse de la paternité. Il s'empressa de le secourir. Mais Gaspard n'eut pas sitôt repris l'usage de ses sens que, ne pouvant soutenir la présence d'un père si justement irrité, il fit un effort pour se relever. Il remonta promptement sur sa mule et s'éloigna sans dire une parole. Balthazar le laissa disparaître et, l'abandonnant à ses remords, revint à Cordoue, où, 6 mois après, il apprit qu'il s'était jeté dans la chartreuse de Séville pour y passer le reste de ses jours dans la pénitence. Chapitre 12. Fin de l'histoire de Scipion. Le mauvais exemple produit quelquefois de très bons effets. La conduite que le jeune Vélasquez avait tenue me fit faire de sérieuses réflexions sur la mienne. Je commençais à combattre mes inclinations furtives et à vivre en garçon d'honneur. L'habitude que j'avais de me saisir de tout l'argent que je pouvais prendre était formée par tant d'actes réitérés qu'elle n'était pas aisée à vaincre. Cependant, j'espérais en venir à bout, ayant souvent ouï dire que pour devenir vertueux, il ne fallait que le vouloir véritablement. J'entrepris donc ce grand ouvrage, et le ciel sembla bénir mes efforts. Je cessai de regarder d'un œil de cupidité le coffre-fort du vieux marchand. Je crois même qu'il n'eût tenu qu'à moi d'en tirer des sacs, que je n'en aurais rien fait. J'avouerai pourtant qu'il y aurait eu de l'imprudence à mettre à cette épreuve mon intégrité naissante. Aussi Vélasquez s'en garda bien. Don Manrique de Medrana, jeune gentilhomme et chevalier de l'ordre d'Alcantara, venait souvent au logis. Nous avions sa pratique qui était une de nos plus nobles, si elle n'était pas une de nos meilleures. J'eus le bonheur de plaire à ce cavalier, qui, toutes les fois qu'il me rencontrait, m'agaçait toujours pour me faire parler et paraissait m'écouter avec plaisir. « Scipion, me dit-il un jour, si j'avais un laquais de ton humeur, je croirais posséder un trésor. Et si tu n'appartenais pas à un homme que je considère, je n'épargnerais rien pour te débaucher. » « Monsieur, lui répondis-je, vous auriez peu de peine à y réussir, car j'aime d'inclination les personnes de qualité. C'est mon faible. Leur manière aisée m'enlève. » « Cela étant, reprit Don Manrique, je veux prier le seigneur Balthazar de consentir que tu passes de son service au mien. Je ne crois pas qu'il me refuse cette grâce. » Véritablement, Vélasquez la lui accorda d'autant plus facilement qu'il ne croyait pas à la perte d'un laquais fripon irréparable. De mon côté, je fus bien aise de ce changement. Le valet d'un bourgeois ne me paraissait qu'un gredin en comparaison du valet d'un chevalier d'Alcantara. Pour vous faire un portrait fidèle de mon nouveau patron, je vous dirai que c'était un cavalier doué de la plus aimable figure et qui revenait à tout le monde par la douceur de ses mœurs et par son bon esprit. D'ailleurs, il avait beaucoup de valeur et de probité. Il ne lui manquait que du bien. Mais, cadet d'une maison plus illustre que riche, il était obligé de vivre aux dépens d'une vieille tante qui demeurait à Tolède et qui, l'aimant comme un fils, avait soin de lui faire tenir l'argent dont il avait besoin pour s'entretenir. Il était toujours vêtu proprement, on le recevait fort bien partout. Il voyait les principales dames de la ville et, entre autres, la marquise d'Almenara. C'était une veuve de 72 ans qui, par ses manières engageantes et les agréments de son esprit, attirait chez elle toute la noblesse de Cordoue. Les hommes ainsi que les femmes se plaisaient à son entretien, et l'on appelait sa maison la bonne compagnie. Mon maître était un des plus assidus courtisans de cette dame. Un soir qu'il venait de la quitter, il me parut avoir un air animé qui ne lui était pas ordinaire. « Seigneur, lui dis-je, vous paraissez bien agité. Votre fidèle serviteur peut-il vous en demander la cause ? Ne vous serait-il point arrivé quelque chose d'extraordinaire ?» Le chevalier sourit à cette question et m'avoua qu'effectivement, il était occupé d'une conversation sérieuse qu'il venait d'avoir avec la marquise d'Almenara. « Je voudrais bien, lui dis-je en souriant, que cette mignonne septuagénaire vous eût fait une déclaration d'amour. « Ne pense pas te moquer, » me répondit-il. « Apprends, mon ami, que la marquise m'aime. »
« Chevalier, » m'a-t-elle dit, « je connais votre peu de fortune comme votre noblesse. J'ai de l'inclination pour vous, et j'ai résolu de vous épouser pour vous mettre à votre aise, ne pouvant honnêtement vous enrichir d'une autre manière. Je sais bien que ce mariage me donnera dans le monde un ridicule, contiendra sur mon compte des discours médisants, et qu'enfin je passerai pour une vieille folle qui veut se remarier. N'importe, je prétends mépriser les caquets pour vous faire un sort agréable.
Tout ce que je crains, a-t-elle ajouté, c'est que vous n'ayez de la répugnance à répondre à mes intentions.
Voilà, poursuivit le chevalier, ce que m'a dit la marquise. J'en suis d'autant plus étonné que c'est la femme de Cordoue la plus sage et la plus raisonnable. Aussi lui ai-je fait réponse que j'étais surpris qu'elle me fît l'honneur de me proposer sa main, elle qui avait toujours persisté dans la résolution de soutenir jusqu'au bout son veuvage. À quoi elle a reparti qu'ayant des biens considérables, elle était bien aise de son vivant d'en faire part à un honnête homme qu'elle chérissait.
« Vous êtes apparemment, repris-je, déterminée à sauter le fossé. »«
En peux-tu douter ? » me répondit-il. « La marquise a des biens immenses, avec les qualités du cœur et de l'esprit. » Il faudrait que j'eusse perdu le jugement pour laisser échapper un établissement si avantageux pour moi.
J'approuvais fort le dessein où mon maître était de profiter d'une si belle occasion de faire sa fortune, et même je lui conseillais de brusquer les choses, tant je craignais de les voir changer. Heureusement, la dame avait encore plus que moi cette affaire à cœur, et bien loin de la négliger, elle donna de si bons ordres que les préparatifs de son hyménée furent bientôt faits. Dès qu'on sut dans Cordoue que la vieille marquise d'Almenara se disposait à épouser le jeune Don Manrique de Medrana, les railleurs commencèrent à s'égayer aux dépens de cette veuve. Mais ils eurent beau s'épuiser en mauvaises plaisanteries, ils ne la détournèrent point de son entreprise. Elle laissa parler toute la ville, et suivit son chevalier à l'hôtel. Leurs noces furent célébrées avec un éclat qui fournit une nouvelle matière à la médisance. La mariée, disait-on, aurait du moins dû, par pudeur et par bienséance, supprimer la pompe et le fracas, qui ne conviennent point du tout aux vieilles veuves qui prennent de jeunes époux. La marquise, au lieu de se montrer honteuse d'être à son âge la femme du chevalier, se livrait sans contrainte à la joie qu'elle en ressentait. Il y eut chez elle un grand repas accompagné de symphonies, et la fête finit par un bal où se trouva toute la noblesse de Cordoue de l'un et de l'autre sexe. Sur la fin du bal, nos nouveaux mariés s'échappèrent pour gagner un appartement où ils s'enfermèrent avec une femme de chambre et moi. Ce qui fournit à la compagnie un nouveau sujet d'accuser la marquise d'avoir du tempérament. Mais cette dame était dans une disposition bien différente de celle où ils la croyaient tous. Aussitôt qu'elle se vit en particulier avec mon maître, elle lui adressa ces paroles. « Don Manrique, voici votre appartement. Le mien est dans un autre endroit de cette maison. Nous passerons la nuit dans des chambres séparées, et le jour, nous vivrons ensemble comme une mère et son fils. » Le chevalier y fut trompé d'abord. Il crut que la dame ne parlait ainsi que pour l'engager à lui faire une douce violence, et s'imaginant devoir, par politesse, paraître passionné, il s'approcha d'elle et s'offrit avec empressement à lui servir de valet de chambre. Mais, bien loin de lui permettre de la déshabiller, elle le repoussa d'un air sérieux et lui dit « Arrêtez, Don Manrique, si vous me prenez pour une de ces tendres vieilles qui se remarient par fragilité, vous êtes dans l'erreur. Je ne vous ai point épousé pour vous faire acheter les avantages que je vous fais par notre contrat de mariage. Ce sont des dons purs de mon cœur, et je n'exige de votre reconnaissance que des sentiments d'amitié. » À ces mots, elle nous laissa, mon maître et moi, dans notre appartement, et se retira dans le sien avec sa suivante, en défendant absolument au chevalier de l'accompagner. Après sa retraite, nous demeurâmes, Don Manrique et moi, fort étourdis de ce que nous venions d'entendre. « Scipion, me dit mon maître, Te serais-tu attendu au discours que la marquise vient de me tenir? Que penses-tu d'une pareille dame?
Je pense, monsieur, que c'est une femme comme il n'y en a point.
Quel bonheur pour vous de l'avoir! C'est posséder un bénéfice sans être tenu d'acquitter les charges.
Pour moi, reprit Don Manrique, j'admire une épouse d'un caractère si estimable, et je prétends compenser par toutes les attentions imaginables le sacrifice qu'elle fait à sa délicatesse.
Nous continuâmes à nous entretenir de la dame, et nous allâmes ensuite nous reposer. Moi sur un grabat dans une garde-robe, et mon maître dans un beau lit qu'on lui avait préparé, et où je crois qu'au fond de son âme, il ne fut pas fâché de coucher seul, quoiqu'il se sentît assez reconnaissant pour oublier l'âge d'une femme si généreuse. Les réjouissances commencèrent le jour suivant, et la nouvelle mariée parut de si belle humeur qu'elle donna beau jeu aux mauvais plaisants. Elle riait toute la première de ce qu'il disait. Elle excitait même les rieurs à s'égayer, en se prêtant de bonne grâce à leur saillie. Le chevalier, de son côté, ne se montrait pas moins content de son épouse, et l'on eût dit, à l'air tendre dont il la regardait et lui parlait, qu'il était dans le goût de la vieillesse. Les deux époux eurent le soir une nouvelle conversation, où il fut décidé que, sans se gêner l'un l'autre, ils vivraient de la même façon qu'ils avaient vécu avant leur mariage. Cependant, il faut donner cette louange à Don Manrique qu'il fit, par considération pour sa femme, ce que peu de maris eussent fait à sa place. Il abandonna une petite bourgeoise qu'il aimait et dont il était aimé, ne voulant pas entretenir un commerce qui eût semblé insulté à la conduite délicate que son épouse tenait avec lui. Tandis qu'il donnait de si fortes marques de reconnaissance à cette vieille dame, elle les payait avec usure, quoiqu'elle les ignorât. Elle le rendit maître de son coffre-fort, qui valait mieux que celui de Velasquez. Comme elle avait réformé sa maison pendant son veuvage, elle la remit sur le même pied où elle avait été du vivant de son premier époux. Elle grossit son domestique, remplit ses écuries de chevaux et de mules. En un mot, par ses généreuses bontés, le chevalier le plus gueux de l'ordre d'Alcantara en devint le plus riche. Vous me demanderez peut-être ce que je gagnais à tout cela. Je reçus 50 pistoles de ma maîtresse et 100 de mon maître, qui, de plus, me fit son secrétaire avec 400 écus d'appointement. Il eut même assez de confiance en moi pour vouloir que je fusse son trésorier.
« Son trésorier ! »
m'écriai-je en interrompant Scipion dans cet endroit et en faisant un éclat de rire.
« Oui, monsieur. » répliqua-t-il d'un air froid et sérieux. « Oui, son trésorier. J'ose même dire que je me suis acquitté de cet emploi avec honneur. Il est vrai que je suis peut-être redevable de quelque chose à la caisse, car comme je prenais dedans mes gages d'avance et que j'ai quitté brusquement le service du chevalier, il n'est pas impossible que le comptable soit en reste. En tout cas, c'est le dernier reproche qu'on ait à me faire. » puisque j'ai toujours été, depuis ce temps-là, plein de droiture et de probité. J'étais donc, poursuivit le fils de la Coscolina, secrétaire et trésorier de Don Manrique, qui paraissait aussi content de moi que j'étais satisfait de lui, lorsqu'il reçut de Tolède une lettre par laquelle on lui mandait que Doña Teodora Muscoso, sa tante, était à l'extrémité. Il fut si sensible à cette nouvelle qu'il partit sur le champ pour se rendre auprès de cette dame qui lui servait de mère depuis plusieurs années. Je l'accompagnai dans ce voyage avec un valet de chambre et un laquais seulement, et tous quatre, montés sur les meilleurs chevaux de nos écuries, nous gagnâmes en diligence Tolède, où nous trouvâmes Doña Teodora dans un état à nous faire espérer qu'elle ne mourrait point de sa maladie. Et véritablement, nos pronostics, quoique contraires à celui d'un vieux médecin qui la gouvernait, ne furent pas démentis par l'événement. Pendant que la santé de notre bonne tante se rétablissait à vue d'œil, moins peut-être par les remèdes qu'on lui faisait prendre que par la présence de son neveu, monsieur le trésorier passait son temps le plus agréablement qu'il lui était possible avec des jeunes gens dont la connaissance était fort propre à lui procurer des occasions de dépenser son argent. Outre les fêtes galantes qu'il m'obligeait à donner aux dames dont il me procurait la connaissance, il m'entraînait quelquefois dans des tripots où il m'engageait à jouer avec eux. Et n'étant pas aussi habile joueur que mon maître Don Abel, je perdais beaucoup plus souvent que je ne gagnais. Je prenais goût insensiblement au jeu, et si je me fusse entièrement livré à cette passion, elle m'aurait réduit sans doute à tirer de la caisse quelques quartiers d'avance. Mais heureusement, l'amour sauva la caisse et ma vertu. Un jour, comme je passais auprès de l'église de Los Royes, j'aperçus au travers d'une jalousie, dont les rideaux étaient ouverts, une jeune fille qui me parut moins une mortelle qu'une divinité. Je me servirai d'un terme encore plus fort, s'il y en avait, pour mieux vous exprimer l'impression que sa vue fit sur moi. Je m'informai d'elle, et à force de perquisition, j'appris qu'elle se nommait Béatrix, et qu'elle était suivante de Doña Julia, fille cadette du comte de Polan. Béatrix interrompit Scipion en riant à gorge déployée, puis adressant la parole à ma femme, « Charmante Antonia, lui dit-elle, regardez-moi bien, je vous prie, n'ai-je pas à votre avis l'air d'une divinité ?»« Vous l'aviez alors à mes yeux, lui dit Scipion, et depuis que votre fidélité ne m'est plus suspecte, vous me paraissez plus belle que jamais. » Mon secrétaire, après une répartie si galante, poursuivit ainsi son histoire. Cette découverte acheva de m'enflammer, non, à la vérité, d'une ardeur légitime. J'en fais un aveu sincère. Je m'imaginais que je triompherais facilement de sa vertu, si je la tentais par des présents, capables de l'ébranler. Mais je jugeais mal de la chaste Béatrix. J'eus beau lui faire proposer par des femmes mercenaires ma bourse et mes soins, elle rejeta fièrement mes propositions. Sa résistance, au lieu d'éteindre mes désirs, les irrita. J'eus recours au dernier expédient. Je lui fis offrir ma main, qu'elle accepta lorsqu'elle sut que j'étais secrétaire et trésorier de Don Manrique. Comme nous trouvâmes à propos de cacher notre mariage pendant quelque temps, nous nous mariâmes secrètement en présence de la dame Laurenza Sephora, gouvernante de Séraphine, et devant quelques autres domestiques du comte de Polan. Je n'eus pas plus tôt épousé Béatrix qu'elle me facilita les moyens de la voir le jour et de l'entretenir la nuit dans le jardin, où je m'introduisais par une petite porte dont elle me donna une clé. Jamais deux époux n'ont été plus contents que nous étions l'un de l'autre. Béatrix et moi, nous attendions avec une égale impatience l'heure du rendez-vous. Nous y courions avec le même empressement, et le temps que nous passions ensemble, quoiqu'il fût quelquefois assez long, nous semblait toujours trop court. Enfin, nous vivions plutôt en amant qu'en époux, mais la fortune jalouse troubla bientôt notre félicité. Une nuit, qui fut aussi cruelle pour moi que les précédentes avaient été douces, je fus surpris, en voulant entrer dans le jardin, de trouver la petite porte ouverte. Cette nouveauté m'alarma, j'en tirai un mauvais augure. Je devins pâle et tremblant, comme si j'eusse pressenti ce qui allait m'arriver. Et m'avançant dans l'obscurité vers un cabinet de verdure, où j'avais accoutumé de parler à mon épouse, j'entendis la voix d'un homme. Je m'arrêtai tout à coup pour mieux ouïr, et mon oreille fut aussitôt frappée de ces paroles. « Ne me faites donc point languir, ma chère Béatrix, achevez mon bonheur, songez que votre fortune y est attachée. » Au lieu d'avoir la patience d'écouter encore, je crus n'avoir pas besoin d'en entendre davantage. Une fureur jalouse s'empara de mon âme, et, ne respirant que vengeance, je tirai mon épée et j'entrai brusquement dans le cabinet. « Ah, lâche suborneur ! » m'écriai-je. « Qui que tu sois, il faut que tu m'arraches la vie avant que tu m'ôtes l'honneur. » En disant ces mots, je chargeai le cavalier qui s'entretenait avec Béatrix. Il se mit promptement en défense et se battit en homme qui savait mieux faire des armes que moi, qui n'avait reçu que quelques leçons d'escrime à Cordoue. Cependant, tout grand spadassin qu'il était, il ne put parer un coup que je lui portais, ou plutôt il fit un faux pas. Je le vis tomber,
et m'imaginant l'avoir mortellement blessée, je m'enfuis à toutes jambes, sans vouloir répondre à Béatrix qui m'appelait à haute voix.
« Oui, vraiment !» interrompit la femme de Scipion en nous adressant la parole. « Je l'appelais pour le tirer d'erreur. Le cavalier avec qui je m'entretenais dans le cabinet était Don Fernand de Leyva. Ce seigneur qui aimait Julie, ma maîtresse, avait formé la résolution de l'enlever, croyant ne pouvoir l'obtenir que par ce moyen. Et je lui avais moi-même donné rendez-vous dans le jardin pour concerter avec lui cet enlèvement, dont il m'assurait que dépendait ma fortune. Mais j'eus beau crier pour rappeler mon époux, aveuglé par sa colère, il s'éloigna de moi comme d'une femme infidèle. Dans l'état où je me trouvais, reprit Scipion, j'étais capable de tout. Ceux qui savent par expérience ce que c'est que la jalousie et quelles extravagances elle fait faire aux meilleurs esprits ne seront point étonnés du désordre qu'elle produisit dans mon faible cerveau. Je passais dans le moment d'une extrémité à l'autre. Je sentis succéder des mouvements de haine aux mouvements de tendresse que j'avais un instant auparavant pour mon épouse. Je fis serment de l'abandonner et de la bannir pour jamais de ma mémoire. D'ailleurs, je croyais avoir tué un cavalier, et dans cette opinion, craignant de tomber entre les mains de la justice, j'éprouvais ce trouble funeste qui suit partout, comme une furie, un homme qui vient de faire un mauvais coup. Dans cette horrible situation, ne songeant qu'à me sauver, je ne retournai point au logis, et je sortis à l'heure même de Tolède, n'ayant point d'autre harde que l'habit dont j'étais revêtu. Il est vrai que j'avais dans mes poches une soixantaine de pistoles, ce qui ne laissait pas d'être une assez bonne ressource pour un jeune homme qui se résolvait à vivre toujours dans la servitude. Je marchai toute la nuit, ou pour mieux dire, je courus, car l'image des alguazils, toujours présente à mon esprit, me donnait sans cesse une nouvelle vigueur. L'aurore me découvrit entre Rodillas et Maqueda. Lorsque je fus à ce dernier bourg, me trouvant un peu fatigué, j'entrai dans l'église qu'on venait d'ouvrir, et, après y avoir fait une prière, je m'assis sur un banc pour me reposer. Je me mis à rêver à l'état de mes affaires, qui n'avaient que trop de quoi m'occuper, mais je n'eus pas le temps de faire des réflexions. J'entends retentir l'église de 3 ou 4 coups de fouet qui me firent juger qu'il passait par là quelques muletiers. Je me levai aussitôt pour aller voir si je ne me trompais pas. Et quand je fus à la porte, j'en aperçus un, qui, monté sur une mule, emmenait 2 autres à vide. « Arrêtez, mon ami, lui dis-je, où vont ces mules ?»« À Madrid, me répondit-il. J'ai amené de là, ici, 2 bons religieux de Saint-Dominique, et je m'en retourne. » L'occasion qui se présentait de faire le voyage de Madrid m'en inspira l'envie. Je fis marcher avec le muletier. Je montai sur une de ses mules et nous poussâmes vers Illescas, où nous devions aller coucher. À peine fûmes-nous hors de Maqueda que le muletier, homme de 35 à 40 ans, commença d'entonner des chants d'église à pleine tête. Il débuta par les prières que les chanoines disent à matine. Ensuite, il chanta le credo, comme on le chante aux grands-messes. Puis, passant aux vêpres, il les dit sans me faire grâce du magnificat. Quoique le faquin m'étourdît les oreilles, je ne pouvais m'empêcher de rire. Je l'excitais même à continuer quand il était obligé de s'arrêter pour reprendre haleine. « Courage, l'ami, lui disais-je. Poursuivez. Si le ciel vous a donné de bons poumons, vous n'en faites pas un mauvais usage. »« Oh, pour cela, non, s'écria-t-il. Je ne ressemble pas, Dieu merci, à la plupart des voituriers qui ne chantent que des chansons infâmes ou impies. Je ne chante même jamais de romance sur nos guerres contre les morts, car si ces choses-là ne sont pas déshonnêtes, vous conviendrez du moins qu'elles sont frivoles, et qu'un bon chrétien ne doit pas s'en occuper. Vous avez, lui répliquai-je, une pureté de cœur que les muletiers ont rarement. Mais dites-moi, mon ami, avec votre extrême délicatesse sur le choix de vos chants, avez-vous aussi fait vœu de chasteté dans les hôtelleries où il y a de jeunes servantes ? Assurément, me répartit-il, la continence est encore une chose dont je me pique dans ces sortes de lieux. je n'y songe qu'aux soins que je dois avoir de mes mules. »
Je ne fus pas étonné d'entendre parler de cette sorte ce phénix des muletiers, et le tenant pour un homme de bien et d'esprit, je liai avec lui conversation après qu'il eut chanté tout son sou. Nous arrivâmes à Illescas sur la fin de la journée. Lorsque nous fûmes à l'hôtellerie, je laissai à mon compagnon le soin des mules et j'entrai dans la cuisine où j'ordonnai à l'hôte de nous préparer un bon souper. Ce qu'il promit de faire si bien que je me souviendrai, dit-il, toute ma vie d'avoir logé chez lui. « Demandez, ajouta-t-il, demandez à votre muletier quel homme je suis. Vive Dieu, je défierai tous les cuisiniers de Madrid et de Tolède de faire une nola podrida comparable aux miennes. Je veux vous régaler ce soir d'un civet de l'apéro de ma façon. Vous verrez si j'ai tort de vanter mon savoir-faire. » Là-dessus, me montrant une casserole où il y avait, à ce qu'il disait, un lapin déjà tout haché, « Voilà, continua-t-il, ce que je prétends vous donner pour votre souper, avec une épaule de mouton rôti. Quand j'aurai mis là-dedans du poivre, du sel, du vin, un paquet de fines herbes et quelques autres ingrédients que j'emploie dans mes sauces, j'espère que je vous servirai un ragoût digne d'un contador mayor. » L'hôte, après avoir ainsi fait son éloge, commença d'apprêter le souper. Pendant qu'il y travaillait, j'entrai dans une salle où, m'étant couché sur un grabat que j'y trouvais, je m'endormis de fatigue, n'ayant pris aucun repos la nuit précédente. Au bout de 2 heures, le muletier vint me réveiller. « Mon gentilhomme, me dit-il, votre souper est prêt. Venez, s'il vous plaît, vous mettre à table. » Il y en avait dans la salle une sur laquelle étaient 2 couverts. Nous nous y assîmes, le muletier et moi, et l'on nous apporta le civet. Je me jetai dessus avidement. Je lui trouvai un goût exquis, soit que la faim m'en fît juger trop favorablement, soit que ce fût véritablement un effet des ingrédients du cuisinier. On nous servit ensuite un morceau de mouton rôti, et, remarquant que le muletier ne faisait honneur qu'à ce dernier plat, je lui demandai pourquoi il ne touchait point à l'autre. Il me répondit en souriant qu'il n'aimait pas les ragoûts. Cette réponse, ou plutôt le sourire dont il l'avait accompagné, me parut mystérieux. « Vous me cachez, lui dis-je, la véritable raison qui vous empêche de manger de ce civet. Faites-moi le plaisir de me l'apprendre. » « Puisque vous êtes si curieux de le savoir, reprit-il, je vous dirai que j'ai de la répugnance à me bourrer l'estomac de ces sortes de ragoûts. Depuis qu'en allant de Tolède à Cuenca, on me servit un soir dans une hôtellerie, pour un lapin de garenne, un matou en hachis. Cela m'a dégoûté des fricassés. » Le muletier ne m'eut pas sitôt dit ces paroles que, malgré la faim qui me dévorait, l'appétit me manqua tout à coup. Je me mis en tête que je venais de manger d'un lapin supposé, et je ne regardais plus le ragoût qu'en faisant la grimace. Mon compagnon ne me guérit pas l'esprit là-dessus, en me disant que les maîtres d'hôtellerie en Espagne faisait assez souvent ce quiproquo, de même que les pâtissiers. Ce discours, comme vous voyez, était fort consolant. Aussi je n'eus plus aucune envie de retourner au civet, pas même de toucher au plat de rôti, de peur que le mouton ne fût pas mieux vérifié que le lapin. Je me levai de table en maudissant le ragoût, l'hôte et l'hôtellerie, et m'étant recouché sur le grabat, j'y passai la nuit plus tranquillement que je ne m'y étais attendu. Le jour suivant, de grand matin, après avoir payé mon hôte aussi grassement que s'il m'eût fort bien traité, je m'éloignai d'Illescas, l'imagination encore si remplie du civet que je prenais pour des chats tous les animaux que j'apercevais. J'arrivai de bonne heure à Madrid, où, sitôt que j'eus satisfait mon muletier, je louai une chambre garnie auprès de la porte du soleil. Mes yeux, quoique accoutumés au grand monde, ne laissèrent pas d'être éblouis du concours de seigneurs qu'on voit ordinairement dans le quartier de la cour. J'admirais la prodigieuse quantité de carrosses et le nombre infini de gentilshommes, de pages et de laquais qui étaient à la suite des grands. Mon admiration redoubla lorsque, étant allé au lever du roi, j'aperçus ce monarque environné de ses courtisans. Je fus charmé de ce spectacle et je dis en moi-même, Quel éclat, quelle grandeur! Je ne m'étonne plus d'avoir ouï dire qu'il faut voir la cour de Madrid pour en concevoir toute la magnificence. Je suis ravie d'y être venue. J'ai un pressentiment que j'y ferai quelque chose. Je n'y fis pourtant rien que quelques connaissances infructueuses. Je dépensais peu à peu mon argent, et je fus trop heureux de me donner avec tout mon mérite à un pédant de Salamanque qu'une affaire de famille avait attiré à Madrid, où il était né, et que le hasard me fit connaître. Je devins son factotum, et je le suivis à son université lorsqu'il y retourna. Mon nouveau patron se nommait Don Ignacio de Ipigna. Il prenait du don pour avoir été précepteur d'un duc qui lui faisait par reconnaissance une pension à vie. Ce n'est pas tout. Il en avait une autre comme professeur émérite de collège. Et de plus, il avait tous les ans du public un revenu de 200 ou 300 pistoles par les livres de morale dogmatique qu'il avait coutume de faire imprimer. La manière dont il composait ses ouvrages mérite bien qu'on en fasse mention. L'illustre Don Ignacio passait presque toute la journée à lire les auteurs hébreux, grecs et latins, et à mettre sur un petit carré de papier chaque apophthegme ou pensée brillante qu'il y trouvait. À mesure qu'il remplissait les carrés, il m'employait à les enfiler dans un fil de fer en forme de guirlande, et chaque guirlande formait un tome. Que nous faisions de mauvais livres! Il ne se passait guère de mois que nous ne fissions pour le moins 2 volumes, et aussitôt la presse en gémissait. Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que ces compilations se donnaient pour des nouveautés, et si les critiques s'avisaient de reprocher à l'auteur qu'il pillait les anciens, il leur répondait avec une orgueilleuse effronterie « Furto laet amor in ipso ». Il était aussi grand commentateur, et il y avait tant d'érudition dans ses commentaires qu'il faisait souvent des remarques sur des choses qui n'étaient pas dignes d'être remarquées, comme sur ses carrés de papier. Il écrivait quelquefois très mal à propos des passages d'Hésiode et d'autres auteurs. Néanmoins, avec tout cela, je ne laissais pas de profiter chez ce savant. Il y aurait de l'ingratitude à n'en pas convenir. J'y perfectionnais mon écriture à force de copier ses ouvrages, et si, me traitant en élève plutôt qu'en valet, il eut soin de me former l'esprit, il ne négligea point mes mœurs. Scipion, me disait-il quand par hasard il entendait dire que quelques domestiques avaient fait une friponnerie. Prends bien garde, mon enfant, de suivre le mauvais exemple de ce fripon. Il faut qu'un valet serve son maître avec autant de fidélité que de zèle, et s'efforce de devenir vertueux par le travail, s'il a le malheur de ne l'être point par nature. En un mot, Don Ignacio ne perdait aucune occasion de me porter à la vertu. Et ses exhortations faisaient sur moi un si bon effet que je n'eus pas la moindre tentation de lui jouer quelques tours pendant 15 mois que je demeurais chez lui. J'ai déjà dit que le docteur Ipigna était originaire de Madrid. Il y avait une parenté appelée Catalina, qui était femme de chambre de Madame la Nourrice, cette soubrette qui est la même dont je me suis servi depuis pour tirer de la tour de Ségovie le seigneur de Santillane, ayant envie de rendre service à Don Ignacio, engagea sa maîtresse à demander pour lui un bénéfice au duc de Lerme. Ce ministre le fit nommer à l'archidiaconat de Grenade, lequel, étant en pays conquis, est à la nomination du roi. Nous partîmes pour Madrid sitôt que nous eûmes appris cette nouvelle, le docteur voulant remercier ses bienfaitrices avant que d'aller à Grenade. J'eus plus d'une occasion de voir Catalina et de lui parler. Mon humeur enjouée et mon air aisé lui plurent. De mon côté, je la trouvai si fort à mon gré que je ne pus me défendre de répondre aux petites marques d'amitié qu'elle me donna. Enfin, nous nous attachâmes l'un à l'autre. « Pardonnez-moi cet aveu, ma chère Béatrix. Comme je vous croyais infidèle, cette erreur doit me sauver de vos reproches. » Cependant, le docteur Don Ignacio se préparait à partir pour Grenade. Sa parente et moi, effrayés de la prochaine séparation qui nous menaçait, nous eûmes recours à un expédient qui nous en préserva. Je feignis d'être malade, je me plaignis de la tête, je me plaignis de la poitrine, et je fis toutes les démonstrations d'un homme accablé de tous les maux du monde. Mon maître appela un médecin, ce qui me fit trembler, m'imaginant que cet Hippocrate allait s'apercevoir que je n'étais point malade. Mais heureusement, et comme s'il eût été d'accord avec moi, il me dit bonnement, après m'avoir bien observé, que ma maladie était plus sérieuse qu'on ne pensait, et que, selon les apparences, je garderais longtemps la chambre. Le docteur, impatient de se rendre à sa cathédrale, ne jugea point à propos de retarder son départ. Il aima mieux prendre un autre garçon pour le servir. Il se contenta de m'abandonner aux soins d'une garde, à laquelle il laissa une somme d'argent pour m'enterrer si je mourais ou pour récompenser mes services si je revenais de ma maladie. Sitôt que je sus Don Ignacio parti pour Grenade, je fus guéri de tous mes prétendus maux. Je me levai, je congédiai mon médecin qui avait tant de pénétration, et je me défis de ma garde, qui me vola plus de la moitié des espèces qu'elle devait me remettre. Tandis que je faisais ce personnage, Catalina en jouait un autre auprès de Doña Ana de Guevara, sa maîtresse, à laquelle, faisant entendre que j'étais admirable pour l'intrigue, elle mit dans l'esprit de me choisir pour un de ses bons agents. Madame la nourrice, à qui l'amour des richesses faisait souvent former des entreprises lucratives, ayant besoin de pareils sujets, me reçut parmi ses domestiques et ne tarda guère à m'éprouver. Elle me donna des commissions qui demandaient un peu d'adresse, et sans vanité je ne m'en acquittai point mal. Aussi fut-elle autant satisfaite de moi que j'eus lieu d'être mécontent d'elle. La dame était si avare qu'elle ne me faisait pas la moindre part des fruits qu'elle recueillait de mon industrie et de mes peines. Elle s'imaginait qu'en me payant exactement mes gages, elle en usait avec moi assez généreusement. Cet excès d'avarice me déplut et m'aurait bientôt fait sortir de chez cette dame, si je n'eusse été retenu par les bontés de Catalina, qui, s'enflammant de plus en plus tous les jours, me proposa formellement de l'épouser. « Doucement, lui dis-je, mon adorable, cette cérémonie ne se peut faire entre nous si promptement. Il faut auparavant que j'apprenne la mort d'une jeune personne qui vous a prévenu et dont je suis devenu l'époux pour mes péchés. »« À d'autres, » me répondit Catalina. « Je ne suis point assez crédule pour ajouter foi à ce que vous dites. Vous voulez me faire accroire que vous êtes marié. Et pourquoi ? Pour me cacher poliment la répugnance que vous avez à me prendre pour votre épouse. » Je lui protestai vainement que je lui disais la vérité. Mon aveu sincère lui parut une défaite, et s'en trouvant offensée, elle changea de manière à mon égard. Nous ne nous brouillâmes point, mais notre commerce se refroidit à vue d'œil, et nous n'eûmes plus l'un pour l'autre que des égards de bienséance et d'honnêteté. Dans cette conjoncture, j'appris qu'il fallait un laquais au seigneur Gil Blas de Santillane, secrétaire du premier ministre de la couronne d'Espagne. Et ce poste me flatta d'autant plus qu'on m'en parla comme du plus gracieux que je pusse occuper. « Le seigneur de Santillane, me dit-on, est un cavalier plein de mérite, un garçon chéri du duc de Lerme, et qui, par conséquent, ne saurait manquer de pousser loin sa fortune. D'ailleurs, il a le cœur généreux. En faisant ses affaires, vous ferez fort bien les vôtres. » Je ne négligeai point cette occasion. J'allais me présenter au seigneur Gil Blas, pour qui d'abord je me sentis naître de l'inclination, et qui m'arrêta sur ma physionomie. Je ne balançai point à quitter pour lui madame la nourrice, et il sera, s'il plaît au ciel, le dernier de mes maîtres. Scipion finit son histoire en cet endroit. Puis, m'adressant la parole, « Seigneur de Santillane, continua-t-il, c'est à vous que je m'adresse à présent. Faites-moi la grâce de témoigner à ces dames que vous m'avez toujours connu pour un serviteur aussi fidèle que zélé. J'ai besoin de votre témoignage pour leur persuader que le fils de la Coscolina a purgé ses mœurs et fait succéder de vertueux sentiments à ses mauvaises inclinations. « Oui, mesdames, dis-je alors, c'est de quoi je puis vous répondre. Si dans son enfance Scipion a été un vrai picaro, il s'est depuis si bien corrigé qu'il est devenu le modèle d'un parfait domestique.
bien loin d'avoir quelque reproche à lui faire sur la conduite qu'il a tenue avec moi, je dois plutôt avouer que je lui ai de grandes obligations. La nuit qu'on m'enleva pour me conduire à la tour de Ségovie, il sauva du pillage et mit en sûreté une partie de mes effets, qu'il pouvait impunément s'approprier. Il ne se contenta pas même de songer à conserver mon bien. Il vint, par pure amitié, s'enfermer avec moi dans ma prison, préférant au charme de la liberté le triste plaisir de partager mes peines.